Bonjour et bienvenue dans Les Chevaux Explorateurs, le podcast qui éclaire votre relation avec votre cheval. Ensemble, nous allons explorer les notions d'autonomie, de lien, de mouvement et bien d'autres encore. Moi, c'est Émilie, je vous accompagne dans vos interrogations, dans la découverte de nouveaux chemins et surtout dans la construction de la relation dont vous rêvez avec votre cheval. C'est parti ! Bonjour et bienvenue à vous dans ce nouvel épisode du podcast Les Chevaux Explorateurs. Aujourd'hui, on est sur un épisode un petit peu spécial, puisque j'avais envie de vous parler de ma philosophie avec les chevaux, de ma façon de travailler, et en particulier de mon approche qui est l'exploration de mouvement. Et du coup, je me suis dit, autant vous demander qu'est-ce que vous voulez savoir. Donc je vous ai posé la question sur les réseaux sociaux, et aujourd'hui, je vais vous répondre aux questions. Donc c'est un épisode interview, mais c'est vous qui m'interviewez. Donc aujourd'hui, on va parler exploration de mouvement, on va parler autonomie du cheval, donc ce sont vraiment mes grandes valeurs principales et mon approche aujourd'hui. Je vous en parle particulièrement parce que je lance une nouvelle session de mon programme Les Exploratrices du Mouvement qui a pour but de vous transmettre toutes ces valeurs et toute cette approche qui me tient profondément à cœur et quelque part vous permettre d'aller plus vite que moi dans la mise en place de cette approche. Et donc pour commencer, j'ai choisi la question qui dit « Quelle a été ta plus grande satisfaction avec tes chevaux après avoir mis en place cette approche ?» Alors la plus grande, c'est quand même très fort comme mot, c'est pas évident. Mais le truc qui me vient spontanément, en fait, ma plus grande satisfaction, et je crois que c'est ma plus grande fierté, c'est Jasmine. Donc Jasmine, c'est ma jument qui a aujourd'hui 27 ans, qui est retraitée de club, que j'ai rencontrée et que j'ai eu en pension quand j'étais ado, auquel elle était ado aussi d'ailleurs. Et puis je l'ai récupérée à sa retraite, donc elle avait 19 ans. Et comme malheureusement beaucoup de chevaux de club, j'étais en gros face à une jument qui était résignée, qui était triste, qui n'avait pas envie d'interagir avec l'humain. Et ma grande satisfaction, c'est qu'aujourd'hui, Jasmine, elle est heureuse d'interagir avec l'humain. Elle est super épanouie dans sa vie et elle est très sûre d'elle. C'est-à-dire que j'ai une jument qui sait très bien me faire comprendre ce qu'elle veut et ce qu'elle veut pas. Et clairement, c'est une satisfaction pour moi parce que c'est pas la jument qu'elle était avant. C'est une jument, qui était pas forcément très appréciée en club, qui était pas bien avec les autres chevaux, qui était pas forcément agréable avec les humains et qui avait tendance à dire merde de manière pas toujours sympathique. Donc, en envoyant les fesses. Et aujourd'hui, clairement, elle s'exprime en douceur ce qu'elle a envie, ce qu'elle n'a pas envie. Elle va me montrer où elle veut aller, elle va réclamer des gratouilles parce que c'est quand même son activité préférée. Et donc, ma grande satisfaction, c'est quand même ça, c'est cette autonomie, cette capacité qu'elle a de communiquer avec moi aujourd'hui et avec les autres personnes qui l'entourent de manière très claire. Donc, ma grande satisfaction, c'est de voir ma jument heureuse et bien dans sa peau. Je trouve que c'est pas mal comme satisfaction. Et vous parler de Jasmine, ça me permet aussi de répondre à la question suivante qui est « Comment as-tu découvert les chevaux ?» Je suis quelqu'un qui a commencé à monter à cheval assez tard, j'avais 13-14 ans. Et en fait, c'est ma mère qui m'a pas laissé le choix. Elle m'a dit « Bon, tu vas aller monter à cheval, tu vas aller faire cette activité-là. » J'étais dans une période où c'était compliqué au collège, donc c'était pas très, très joyeux dans ma vie, et je suis tombée dans la marmite et j'en suis jamais ressortie. Donc elle m'a un peu poussée à aller monter à cheval, et puis au bout d'un trimestre, je montais deux fois par semaine et je voulais plus lâcher. Donc je suis tombée dans l'équitation de club très classique. J'ai fait des concours de CSO, club, tout ce qui est le plus traditionnel en équitation. J'ai rencontré Jasmine, en fait, quand j'ai commencé à monter, le club ouvrait, Jasmine avait 3 ans, donc je l'ai rencontrée là-bas. Et c'est mes premières expériences en tant que gardienne d'un cheval, quasiment, c'est Jasmine. Et un petit peu avant, mais j'ai eu Jasmine en demi-pension pendant 2 ans, entre mes 16 et mes 18 ans, donc entre ses 6 et ses 8 ans. Mais on était encore toujours dans cette approche d'équitation traditionnelle. Ouais, et j'ai vraiment ces souvenirs d'un côté très contradictoire. Il y avait quand même une approche très contraignante au cheval, j'utilisais la cravache. Je ne concevais même pas de pas monter sans cravache. D'ailleurs, la relation au cheval était vraiment beaucoup montée à cheval. Et en même temps, j'ai vécu des trucs géniaux avec cette jument. La première, peut-être la seule fois dans ma vie où j'ai sauté 1m30, c'était avec Jasmine. Et je me souviens d'à quel point elle m'a donné ça, parce que c'était un cadeau, c'est une jument qui fait 1m45. Elle l'a pas fait beaucoup non plus, je pense, dans sa vie, on l'a fait une fois en puissance. Et donc du coup, il y avait vraiment ce côté, j'ai créé du lien, et j'ai découvert le lien avec le cheval à ce moment-là. Et puis j'ai fait comme beaucoup de gens, c'est-à-dire que j'ai eu 18 ans, je suis partie faire des études, et donc j'ai arrêté de monter à ce moment-là. Et c'est là où on peut passer un peu quelques années 12 ans, je crois. Donc, je montais un petit peu de manière irrégulière dans des clubs, soit dans mon club où j'ai après monté, soit dans d'autres clubs là, selon où j'étais. Et puis, un jour, j'étais en Suisse. Donc, je vivais en Suisse à ce moment-là. Je travaillais en Suisse. Donc, à 500 km de chez moi, qui suis française, on peut préciser ça, qui suis champenoise. Et je suis toujours dans la Marne d'ailleurs. J'y suis revenue. Et je rentre un week-end chez mes parents. Et le moniteur me dit est-ce que tu veux Jasmine? Ah, oui. Et je me suis retrouvée à dire, OK, je vais avoir ma jument qui a 19 ans, qui prend sa retraite de club. Et je l'ai emmenée à 500 bornes de chez mes parents. On a fait 500 bornes de route. On a passé une frontière. On est sorti de l'Union européenne pour aller en Suisse. Donc, elle m'a rejoint en Suisse à ce moment-là. Et finalement, c'est là que démarre ma recherche et ma découverte d'une autre approche, d'une approche qui va être plus dans le sans-force, dans le sans... Enfin, sans... avec moins de contraintes, plus de pour le cheval, de la recherche d'autonomie et de la communication avec le cheval. Elle a commencé à ce moment-là. Donc, je vais petit à petit répondre à une autre des questions ici, qui est quelles ont été les grandes étapes de ta reconversion vers le sans-force, qui est aussi liée à la question par quelle phase es-tu passé dans ta pratique avec tes chevaux avant d'en arriver où tu en es aujourd'hui. Puisque c'est vraiment au moment où Jasmine est arrivée avec moi que j'ai commencé à chercher une autre façon d'interagir avec le cheval. Parce que, ben voilà, je me suis retrouvée avec une jument qui était quand même, qui a fait pas trop envie d'interagir, qui a été bien contente d'être dans son pré avec les copains et de pas faire grand-chose d'autre avec l'humain. Et j'avais envie d'avoir une relation où elle était heureuse aussi d'interagir avec moi et elle s'intéressait au fait d'agir avec moi. Donc c'est vraiment, voilà, à ce moment-là où mes premiers questionnements sont venus. Et ma première découverte, en fait, c'est quand j'ai rencontré ma pareuse. Donc ça faisait à peu près 6 mois que j'avais Jas. Et bah, petit à petit, on a sympathisé. Et puis, bah, elle m'a montré comment elle travaillait avec sa jument et elle travaillait en kicker training. Et là, j'ai fait, waouh, mais c'est trop bien son truc! Mais ta jument, elle fait des déplacements latéraux en aspiration comme ça, juste facile. Ok, bah là, ça m'intéresse. Donc, ça a été ma première porte d'entrée vraiment vers cette approche plus d'autonomie du cheval. Ça a été la découverte du clicker training dans la dynamique de comment je peux redonner de la joie et de l'étincelle dans l'œil de ma jument. C'est vraiment comme ça que je l'ai découvert, que j'ai voulu envie d'aller creuser le sujet. Donc, je me suis formée par les bouquins et par un stage d'Hélène Roche. Donc ça a été vraiment ma première étape dans ma reconversion, entre guillemets, de passer là de l'équitation classique à une autre forme d'équitation, c'est de voir ma jument, de sentir on n'avait pas la relation que je voulais, parce que on n'avait pas la communication que je rêvais, et elle n'était pas heureuse de faire des choses, enfin, elle ne trouvait pas forcément l'intérêt. Et donc ça m'a permis d'aller rencontrer Clicker Training. C'était là vraiment la première étape de cette reconversion, entre guillemets. Et donc ça a été, j'étais un peu plus d'un an en Suisse, après je suis rentrée en France, dans la région de mes parents avec Jasmine, hein, je l'ai gardée, je l'ai ramenée, ma jument. Je ne vous rentrerai pas dans les détails des déménagements, l'aller-retour avec la Suisse et de passer les douanes, c'est très drôle, ou pas, mais bon, ça a été une aventure. Et évidemment, je suis rentrée en France à ce moment-là, avec l'envie, à ce moment-là aussi, d'aller dans une recherche de changer de métier, et pas mal de questionnements sur le plan pro. Et dans cette période-là, quand je suis rentrée en France, je pense que c'est à cette période-là que j'ai découvert un Transzen pour la première fois, parce qu'on m'a posé la question, comment as-tu découvert un Transzen? Et je sais que je l'ai découvert via un blog, par une personne qui ne travaille plus dans cette approche aujourd'hui. Parce que oui, j'avais un blog à l'époque aussi. J'avais un blog sur mes voyages à cheval, qui est d'ailleurs toujours en ligne. Et donc, on était en 2017-2018, on était encore à l'époque des blogs, même si c'était là plutôt vers la fin. Et j'ai découvert un Transzen sur un blog. Et c'est à peu près à ce moment-là aussi que j'avais commencé à aller sur Insta. Et donc de là, j'ai découvert le compte Instagram de Cathy Sierra, qui est la fondatrice de l'approche. Et plus je voyais, plus je disais, ouais, il y a quand même quelque chose qui me parle vachement là-dedans. Je pense pas que j'ai commencé à ce moment-là, j'ai plus cherché des infos, été me renseigner sur le sujet. C'est aussi à cette période-là que First est revenu dans ma vie. C'est un poulain qui est né chez une amie, donc que j'ai connu à sa naissance. C'était toute une aventure parce que j'ai un cheval qui ne savait pas téter à la naissance, qu'on a nourri au seau de lait pendant plusieurs mois. Donc c'était une aventure. Donc First, je le connais depuis qu'il est tout bébé. À la base, elle avait prévu de le garder. Et puis, pour des raisons de santé assez importantes de son côté, elle a dû se séparer de ses chevaux. Et elle a choisi de me confier First. Elle me l'a confié à peu près à la période où j'ai eu Jasmine, mais il est vraiment revenu dans ma vie quand je suis rentrée en France. Donc il avait 2 ans et demi. Voilà, un anti-Irish Cob de 2 ans et demi et une jument de 20 ans, c'est pas du tout le même style, hein. Donc là, ça a été encore, une autre phase parce que un autre cheval et une autre façon de travailler. Parce que Jasmine, j'avais finalement très peu d'objectifs. On faisait encore un peu de balade à ce moment-là, à monter. Beaucoup de balades pour aller brouter. Et puis c'est tout. Et à l'inverse, ben, je me retrouve avec un poulain qui a tout à apprendre et que j'avais à éduquer. Et forcément, j'avais envie d'aller l'éduquer ben, dans une approche qui me corresponde, dans une approche qui soit respectueuse du cheval. Et comme beaucoup, à ce moment-là, je suis passée dans la phase ben, équitation étau. Parce que c'est ce qui était accessible. On parlait encore très peu de clicker training à ce moment-là. Donc j'ai vraiment voulu creuser le sujet de l'équitation éthologique par une plateforme en ligne qui commençait à ce moment-là. Et j'ai dû suivre un petit peu 6 mois, donc j'ai vu les bases, les 7 jeux de Parelli et tout ça. Mais j'ai très peu réussi à mettre en application parce que très rapidement, je me retrouvais en décalage avec ce que je voyais. En fait, j'avais cette sensation de décalage entre ce qu'on dit que c'est bon pour le cheval, que c'est une approche, voilà, on va être dans l'écoute, dans la communication avec le cheval, et certains moments de pratique, quand je voyais les personnes monter en phase, et c'est vraiment beaucoup lié à la montée en phase, où j'avais l'impression qu'il n'y avait pas d'écoute du cheval et même que ça pouvait créer de la peur. Dans ce que je voyais, dans les exemples que je voyais, vraiment, moi, je ne me retrouvais pas là-dedans. Et je me suis dit, non, mais il y a un truc qui ne va pas. Et du coup, je n'avais pas envie d'appliquer ça avec mon cheval. Et je ne me retrouvais pas. Enfin, voilà, il y avait quelque chose qui n'allait pas là-dedans. Et cette notion de il faut être ferme, j'avais du mal parce que souvent, je le sentais comme quelque chose de très fort au niveau de la contrainte appliquée sur le cheval. Et donc, moi, ça ne me convenait pas. Donc j'avais toujours le clicker training en tête, mais c'est vrai qu'au début, la première année, j'ai pas travaillé force au clicker parce qu'en fait, j'avais pas forcément les clés, je savais pas comment faire. Parce que bah voilà, comment j'éduque un poulain au clicker? J'ai pas d'infos. Comment je fais? Et j'ai découvert la formation comportementaliste. Je savais que j'avais envie d'aller vers un travail auprès des chevaux. Et voilà, je dis, ah, c'est ça que je veux faire. Donc je me suis lancée dans une formation comportementaliste équin qui travaillait avec du clicker. Donc ça, c'était aussi super important pour moi parce que c'était OK, le côté comportement, moi qui suis chercheuse de formation, comprendre les choses, ça me passionne. Et en même temps, le côté où je savais que le clicker était une approche avec laquelle j'étais en phase, puisque j'avais déjà testé avec ma jument et que ça me correspondait. Ça correspond aussi à la période où j'ai ramené First chez moi. Donc, avant, il était en pension à 3 quarts d'heure de chez moi. Et à peu près à ce moment-là, quand j'ai commencé ma formation, bah, First, je l'ai ramené à 300 mètres de chez mes parents et j'étais à 10 minutes parce que moi je vivais en ville à ce moment-là. Donc vraiment, bah, j'ai pu ramener First tout près de chez moi et aller le voir plus souvent et l'avoir en charge vraiment au quotidien. Alors, Jasmine n'était pas encore avec, enfin dans le même coin à ce moment-là, elle n'est toujours pas avec dans le même pré puisque First est toujours entier. Donc ma jument n'est pas dans le même pré que mon entier, surtout ma jument de 27 ans. Mais voilà, aujourd'hui, elle est à côté avec un autre copain et First est aussi avec Félix. Bon, on y reviendra. Et donc, bah, en fait, ça a vraiment été ma phase d'expérimentation de je vais aller à fond dans le clicker training. Pendant les 9 mois de formation, ça a été ma période clicker training où j'ai pu tester les choses avec First. Et c'est aussi la période où j'ai beaucoup chialé avec First. Parce que bah, First, je vous l'ai dit, c'est un cheval qui ne savait pas téter à la naissance. Et je pense que du coup, c'est un cheval qui a un vécu de restriction alimentaire, de peur de manquer de nourriture, mais qui l'a bah, du coup depuis sa naissance. Parce qu'on avait beau le nourrir au seau toutes les 4 heures. Ben, il aurait eu sa mère, il aurait bu tout le temps quand il avait soif. Donc malheureusement, je pense qu'il a eu cette expérience très jeune de manquer de nourriture. Pas de notre faute, mais bon, voilà, on a fait de notre mieux et voilà. Mais c'est dans son expérience passée. Quand il était en pension, je pense qu'il y a eu des moments où il a eu faim. Pareil, il avait du foin la nuit, mais qui lui tenait pas forcément toute la nuit. Donc je pense qu'il a revécu cette expérience qu'il avait faim. Donc quand je l'ai ramené à la maison, ben, on est déjà passé au foin à volonté. Mais je pense qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de temps chez lui pour intégrer qu'il n'allait pas manquer de nourriture. Quand je dis beaucoup de temps, c'est qu'il va avoir 9 ans. Ça fait 1 ou 2 ans que je suis à l'aise. Donc ça a mis peut-être 3 à 4 ans pour que vraiment le fond du travail soit suffisamment posé avec lui. Et donc voilà, j'ai testé le clicker avec lui et je me suis vraiment posé la question, bah, est-ce que je continue ou est-ce que je retourne dans des approches équitation et tôt? Parce que là, ça ne va pas. Là, il me mord, là, il frustre monstre. Qu'est-ce que je fais? Et j'arrivais pas à avoir la réponse dans ma formation. Je sais que j'ai posé les questions et les solutions qu'on m'a proposées n'étaient bah, pas suffisantes. Parce que c'était un cheval, c'était quand même assez extrême dans son cas. Et j'ai eu l'occasion, à ce moment-là, d'échanger avec Cathy Sierra, qui m'a proposé une paire de solutions, une paire d'idées, et je me suis dit, ah ouais, ça, avec toujours lié au clicker. Hein. Mais du coup, déjà, c'était un truc où, ouais, elle m'a apporté des solutions. De deux, trois astuces qui m'ont aidé à avancer sur ces difficultés que j'avais avec First. Donc, ça a joué encore dans mon intérêt, je pense, sur un Transzène. Et donc là, je suis arrivée à une période où j'étais 100% ou quasi 100% renforcement positif classique. Voilà, c'était ma deuxième étape, c'est de passer. Il y a eu la découverte du clicker et après, il y a eu le fait de passer à vraiment une approche 100% R+. Et j'étais toujours dans cette recherche, dans cette envie d'avoir plus d'autonomie pour les chevaux. C'est aussi à la fin de ma formation que Félix est arrivé chez moi, puisque First avait besoin d'un copain parce que celui qu'il avait partait. Et je voulais un poney, donc j'ai pris un poney. J'ai pris un poney sauvage, je me suis dit, c'est bon, je suis comportementaliste, je viens de finir ma formation, je vais gérer le truc. Non. J'ai eu un bon poney sauvage qui m'a posé plein de questions aussi. Et c'est vrai qu'avec Félix, j'ai fait ce choix de l'écouter et de respecter son rythme. Parce que c'était le choix qui était en cohérence avec moi-même. Je ne suis pas sûre que ce soit le choix qui soit valable pour tout le monde, mais pour moi, c'était vraiment important d'aller travailler en suivant ses émotions et à son rythme. J'avais pas prévu que ça serait aussi long. Hein. Mais bon, au bout de quelques mois, j'ai bien compris que ça me prendrait du temps, parce que au bout de 2 mois, je pouvais toujours pas le toucher. Et quand je me disais, il va falloir lui enlever le e-col, il s'est débrouillé pour l'enlever tout seul. Il n'en a pas eu depuis. Et en fait, là, j'ai vraiment été face à cette idée que je sais comment je pourrais faire pour l'e-col et Félix. Ça passerait par le coincer dans un coin. Donc ça passerait par pas respecter ses peurs et ses limites. Et je crois que ça a été une étape qui m'a permis de me dire, ouais, mais qu'est-ce que je veux moi? Qu'est-ce qui est en cohérence avec moi-même? Et je pense que voilà, avec Félix, il y a eu une forme de décision en moi de dire, ouais, là, je continue dans cette logique et je vais aller au bout et je vais aller faire de mon mieux pour travailler, pour l'aider à prendre confiance en l'humain et qu'on puisse construire une relation, une communication et que je puisse un jour lui mettre un e-col et le soigner comme il en a besoin. Mais ça, je vais le faire en restant en accord avec moi. Ouais, il va me falloir de la patience, mais au moins, je suis alignée avec ce que je veux et avec mes valeurs. Donc, quelque part, là, je crois qu'il y a une forme d'étape de décision de rester dans cette valeur-là, dans cette lignée-là. Et donc, forcément, pour aller continuer dans cette logique-là, un transène que je suivais sur les réseaux sociaux depuis un moment, c'était le truc qui me paraissait tellement pertinent d'aller creuser. Et moi, j'avais besoin de pas aller expérimenter ça n'importe comment. Et donc, j'ai pris le cours de Cathy et Steinar à l'époque, qui était le projet Proprius, qui aujourd'hui est fermé, mais qui vraiment m'a beaucoup aidée. Parce que moi, c'est vrai que j'ai quand même ce besoin de comprendre ce que je fais, de comprendre pourquoi je le fais, de m'approprier les outils. Et j'avais besoin de ça, de cette théorie, pour pouvoir aller oser mettre les choses en pratique. Et c'est pour ça que pour moi, c'était important de prendre une formation. Et donc là, je suis vraiment passée dans ma période d'expérimentation autour vraiment du côté du mouvement. Parce que Intrinsène, c'est vraiment lié au mouvement. Alors que le clicker, plus général, on est beaucoup plus sur s'intéresser au comportement. Et Intrinsène aussi sur aller questionner comment je pratique le R+, et comment je peux le changer pour mettre plus d'espace de proposition à mon cheval, plus d'espace de communication, et pas risquer de tomber dans un renforcement positif coercitif, parce que ça peut arriver dans la façon, selon les façons dont on va amener les choses, qu'on va en fait pas laisser de choix au cheval, et qu'on peut ne pas laisser d'espace pour le consentement du cheval, même en travaillant en renforcement positif. Et donc, ouais, ça fait 2018, 2019, 2019. Donc, ça va faire 5 ans cette année que j'ai suivi ce cours-là et que je suis vraiment passée dans cette approche exploration du mouvement à fond, où j'ai commencé à aller tester comment on pouvait mettre les choses avec mes chevaux, donc avec les trois, avec des choses différentes. Et c'est vraiment intéressant parce qu'en fait, on va vraiment explorer des choses différentes avec les différents chevaux. J'ai cette question d'ailleurs aussi, c'est quelles sont tes différentes explorations avec chacun de tes chevaux? Et ils sont vraiment tous uniques, et du coup, on ne fait pas du tout les mêmes choses. Alors le premier, ça a été First, c'était mon cheval qui était en apprentissage avec un objectif de le débourrer un jour, qui est toujours un objectif de le débourrer un jour, hein, parce que finalement, on s'éclate tellement à pied qu'aujourd'hui, je travaille à pied quand j'ai le temps, quand j'ai envie, et que lui, ça lui convient, mais on s'amuse. Et avec lui, vraiment, ça a été le questionnement. Alors dans un premier temps, j'ai appris à aller chercher du mouvement, à mettre de l'énergie en mouvement. C'était assez facile pour First. Mais en fait, ça a été vraiment cette question de comment je gère sa frustration, comment je gère ses émotions, comment je me mets en sécurité avec un cheval qui, parfois, peut être très, très, très intense, qui peut devenir collant, voire bousculé, qui pouvait venir se cabrer très proche de moi, qui m'a chopé beaucoup plus d'une fois. En travail, exploration du mouvement, comme en travail, enfin, comme en dehors, hein. C'était vraiment quelque chose de très intense chez lui. C'est ce que je disais avant, c'est probablement lié à une frustration alimentaire et un manque de nourriture. Et donc, du coup, ça peut me permettre de répondre à une des questions qui est comment poser des limites et mettre le cheval à distance pour la sécurité. C'est vraiment typiquement First qui m'a appris ça. J'ai énormément, énormément travaillé en contact protégé avec First. Dès qu'on parlait mouvement, c'est contact protégé. Mais même être dans le pré avec lui, ça a nécessité du travail. Donc en fait, First, j'ai dû lui apprendre qu'il pouvait marcher à côté de moi, sans me coller, sans me bousculer, sans s'énerver. Et on n'a pas fini ce chemin-là encore, hein. Mais vraiment, c'est l'idée que bah, je dois lui apprendre comment se comporter, quels sont les comportements qui sont les bons. Et First, je lui ai appris à déplacer les épaules, donc de pousser ses épaules, en fait, quand on travaille ensemble. J'avais besoin de lui apprendre à s'éloigner, donc le côté bah, céder à la pression sur l'épaule. Je lui ai appris en mélangeant un peu renforcement positif, renforcement négatif, lui, à ce moment-là. Mais vraiment, bah, ça a été un truc super important, lui apprendre qu'il pouvait s'éloigner de moi, en fait. Et qu'il pouvait s'éloigner de moi et obtenir la récompense. Et c'est vraiment, pour moi, une des clés quand on veut assurer la sécurité, quand on veut mettre de la distance avec le cheval, particulièrement avec des chevaux qui ont tendance à être un peu envahissants, c'est de lui apprendre que tu n'auras la récompense que si tu es assez éloigné de moi, et si tu es collé à moi, tu n'auras jamais de renforcement. Parce qu'ils viennent chercher ça, ils viennent chercher l'interaction, le renforcement, qui peut être la récompense ou la gratouille selon les chevaux, ou le fait d'être lié à son humain. Donc, plus que poser des limites, j'ai vraiment essayé de l'accompagner pour lui apprendre à qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qui est bien. Donc avec ce gros travail, je disais, en contact protégé, bah, je vais plus lui apprendre que je peux être loin de toi, mais on peut quand même jouer ensemble. Et bah, lui apprendre à s'éloigner, à céder à l'action de la main sur l'épaule. Et bah, de s'éloigner, d'aller prendre son cercle, et que c'est quand t'es éloigné que tu vas avoir ton clic et ta récompense. Et petit à petit, bah, voilà, il a appris vraiment à s'éloigner. Et c'est pour ça qu'on a aussi on a des jolis petits cercles avec First. Il tourne vraiment très bien. Aussi parce que j'ai un espace, un pré qui est assez petit. Donc j'ai des espaces de travail, enfin je travaille dans le pré, donc j'ai des espaces très petits. Donc en fait, il est très vite obligé de tourner parce qu'il ne peut plus aller tout droit, il y a une clôture. Et donc du coup, c'est vraiment ce côté-là, quand on veut mettre de la sécurité, c'est d'apprendre au cheval les comportements qui nous mettent en sécurité. D'aller renforcer tout ce qui va nous mettre en sécurité et d'aller ne jamais ou aussi peu que possible renforcer les comportements qui sont plus ou moins dangereux. Donc un cheval qui a tendance à être envahissant, on va faire notre mieux pour jamais renforcer le fait d'être proche de nous. Et on va lui apprendre qu'il est renforcé, qu'il est encouragé quand il s'éloigne, quand il prend de la distance. Et bien évidemment, quand on va aller sur de l'exploration de mouvement et qu'on va aller sur des mouvements un peu plus explosifs, même si ton cheval il a un mouvement magnifique, tu ne cliques pas s'il est trop près de toi. C'est pas quelque chose qu'on va encourager, donc on ne va pas le renforcer. Et puis, bah voilà, vraiment toujours tout ce qui va être encouragé, des mouvements intenses, des mouvements badass, des mouvements forts, c'est au début en contact protégé pour voir comment on fonctionne ensemble. Et bah, je sais que par exemple pour un cheval comme First, finalement ce qui est difficile, c'est sa gestion de ses émotions, c'est sa relaxation. Et j'ai eu un grand, grand questionnement sur la relaxation et sur lequel je suis encore en train de travailler, notamment lié à First, sur le fait que bah, ce qui est difficile pour First, ça va être de me tenir dans la durée sur une allure en étant calme. Et notamment de marcher avec moi tranquillement en étant détendu. Et ben en fait, comment je fais pour travailler ça? Ben je renforce. Donc on le fait. Et je sais que je lui demande de faire l'effort d'aller chercher du calme et je peux cliquer et récompenser ça. Et d'ailleurs, c'est mon exploration du moment aujourd'hui avec First. Je sais qu'il est capable de bouger. Alors, j'ai 2 années qui sont passées où j'ai peu travaillé mes chevaux pour plein de raisons perso. Donc là, ça mériterait qu'on reprenne un petit peu de mouvement parce que je pense qu'ils ont tous besoin un peu plus de mouvement, en plus on est en sortie d'hiver, de phase de boue. Voilà, hein, on connaît tous la boue et l'hiver. Donc je pense que je vais reprendre un petit peu du travail vraiment sur du mouvement, des allures plus importantes. Mais ce que j'ai envie d'explorer avec First aujourd'hui, c'est ce côté relaxation, marcher au pas ensemble. Là, on travaille en ce moment le fait de marcher avec la tête au sol, donc sur des extensions d'encolure, au pas, prenne-moi. Et c'est difficile pour First. Et c'est pour ça que je vais aller l'explorer. C'est parce que je sais que c'est quelque chose qui lui demande plus d'effort que de me faire un joli trot à côté de moi. Parce que ça, il a l'habitude. Ça, c'est un mouvement qui est dans l'énergie, qui est dans son rythme. Et donc, il n'a pas trop besoin de gérer son calme. Donc, ça, c'est ce qu'on explore en ce moment avec First. Avec Félix, ben, notre exploration, elle était vraiment sur le côté lui faire gagner confiance en son corps pour qu'il ait plus confiance en présence de l'humain et pour diminuer ses peurs. Il est arrivé à la maison, il avait passé, je pense, 6 mois en boxe tabu, enfin, petit espace. Au début, je me suis dit, oh la vache, il bouge pas bien ce poney. Enfin, je l'avais l'impression qu'il était pas bien dans son corps, il était tout étriqué et tout. Si vous avez déjà vu des vidéos de Félix aujourd'hui, c'est plus la même chose, mais vraiment au début, j'étais là, ouh, qu'est-ce que c'est que ça? Et donc au début, bah, ça a juste été exploré. Est-ce qu'on peut jouer ensemble? T'as vu, c'est sympa l'humain. J'ai passé des mois et des mois à lui donner des récompenses qu'il prenait dans la main pour prendre la confiance, parce que voilà, il s'est toujours pas touché. Mais il y a vraiment eu ce côté, bah, apprendre à me courir après, c'est drôle. On a fait beaucoup, bah, on court ensemble, parce que bah, la cible, ça faisait peur. Donc j'avais pas trop d'options. Donc voilà, avec Félix, au début, généralement, bah, on a couru ensemble. Et du coup, bah, ça l'a remis en mouvement, et ça m'a fait un poney qui a regagné confiance en son corps. On a vraiment... J'ai travaillé petit à petit les demi-tours sur les hanches. Donc moi, je faisais des demi-tours soudains, et lui, il me suivait. Que j'ai beaucoup cliqué, parce que du coup, bah, ça fait gagner en agilité et tout ça. Et cette exploration-là nous a amené au cabré. Et c'est vraiment sur cette formulation-là. C'est-à-dire que j'ai pas du tout cherché dans ma tête, je vais lui apprendre à se cabrer. C'est juste que il gérait super les demi-tours, et petit à petit, bah, il les a montés de plus en plus vers le haut, parce qu'il a gagné en capacité physique, il a gagné en confiance, et c'est comme ça qu'on a construit un cabré chez Félix, où il est vraiment au contrôle de ce cabré. Et ça était arrivé à un point où il cabrait un peu tout le temps, un peu trop pour moi. Donc il y a un moment, j'ai arrêté de le renforcer, parce que justement, c'était un peu trop. Et je l'ai même vu des fois, quand il n'était pas tout à fait à l'aise, eh ben, il montrait ce mouvement-là, il sortait son mouvement, parce que celui-là, je me sens fort quand je le montre, quand je me cabre. Ouais, mais quand tu te capes devant les humains, c'est un peu moins cool. Donc j'ai un petit peu arrêté de le renforcer là-dessus. Parce que, voilà, mais c'est vraiment le mouvement, c'était son mouvement signature, quoi. On sentait vraiment qu'il l'a intégré et qu'il se l'est approprié. Et donc qu'il sait l'utiliser pour lui quand il en a besoin. Et il l'utilisait pour faire face à ses peurs en disant, t'as vu, je suis fort, je suis costaud. Et je pense que quelque part, c'est en lui, ça lui a amené à se dire, ouais, je peux faire ça, je peux me cabrer, je suis trop fort, quoi. Et la conséquence de ça, c'est que j'ai vraiment vu une amélioration sur ses émotions, sur sa gestion de ses émotions. J'ai un poney, j'avais levé le bras, il se barrait en courant, même sur un geste qui n'était pas forcément très fort. Mais je pense vraiment le fait qu'il ait pris confiance dans son environnement, et surtout qu'il ait pris confiance dans son corps et dans les capacités de son corps, bah, ça lui a permis d'affronter ses peurs de manière plus régulée. Et donc vraiment, plus j'accompagnais Félix dans son exploration de ses mouvements, dans la prise de confiance sur sa capacité à bouger son corps, et plus j'ai vu qu'il était de plus en plus apaisé et de plus en plus capable de gérer les choses qui lui faisaient peur, bah, y compris l'humaine que je suis. Évidemment, il y a une dimension, bah, où il s'habitue à ma présence, à mes interactions et tout ça, mais je pense que vraiment, je l'ai vu faire des bonds de moins en moins marqués. Même encore aujourd'hui, quelque chose le surprend, il sursaute encore, mais il fait plus un départ au galop et s'éloigner de 20 mètres, parce qu'il est capable de se dire, ouais, là, je gère dans mon corps. Je suis capable de prendre j'ai confiance en mon corps et je sais quoi en faire. Donc ça, c'est mes deux jeunes, hein, puisque aujourd'hui, ils ont 9 ans. Alors jeune, oui, je sais, c'est encore mes... First, c'est encore mon bébé, je l'ai vu tout bébé, c'est trop dur de se dire qu'il a grandi, mais bon, c'est comme ça. Et puis, bah, avec Jasmine, c'est un peu la dynamique inverse, puisque c'est une jument qui a de l'arthrose, qui vieillit. Et donc avec elle, bah, mes explorations, c'est vraiment l'idée d'aller l'accompagner pour être le plus possible bien dans son corps le plus longtemps. Son exercice préféré, c'est les carottes stretch. J'ai commencé, bah, quand j'étais en Suisse, déjà à ce moment-là, je faisais même pas d'intrasaine, je faisais peut-être même pas encore du kniker, mais j'ai une jument qui est super souple et qui, du coup, bah, utilisait à force les carottes stretch pour me réclamer la récompense, parce qu'elle avait bien compris, quand je tourne la tête, la conséquence, c'est que j'ai la récompense. Et je pense que ça fait partie des choses qui ont contribué à la garder en bonne santé et bien dans son corps aujourd'hui. Vraiment, l'idée, c'est d'aller continuer à la mobiliser et à lui proposer des choses où elle va pouvoir bouger dans les trois plans du mouvement, en 3D, quoi. De bouger son corps dans toutes les directions. Donc, on fait des choses beaucoup, beaucoup au pas, parce que de toute façon, si elle n'a pas envie de trotter, elle trotte pas, et c'est souvent qu'elle n'a pas envie de trotter. Mais on travaille beaucoup sur ce qui est le côté, ben, proprioception. Je lui propose régulièrement des déplacements latéraux. Tout ce qui est étirement, donc les carottes stretch, ça peut être aussi, ben, la tête vers le bas, enfin, carottes stretch dans toutes les directions. Passer au-dessus des barres. Ça travaille sur la proprioception. Donc avec Jasmine, on est vraiment sur ce côté, bah, préserver la santé de ma jument qui vieillit, qui a son corps, bah, voilà, qui a de l'arthrose, qui a des difficultés normales liées à son vieillissement, et de faire en sorte, bah, qu'elle vieillisse le mieux possible. Et comme je disais au début, bah, une de mes grandes satisfactions, c'est vraiment que ouais, elle vieillit super bien, elle est très belle à 27 ans, elle est bien dans son corps, bien dans sa tête, et ouais, ça c'est vraiment très chouette, quoi. Donc ça, c'est un petit peu mon histoire avec mes chevaux, et vraiment tout ce que ça peut nous apporter, l'exploration de mouvement. Donc, en fonction de chaque cheval, on a vraiment des envies et des objectifs qui vont être différents. et qui vont correspondre à l'individu qu'est le cheval qu'on a en face de nous. Donc, un cheval vieillissant comme Jasmine, ben, on va faire en sorte qu'elle reste en bonne santé. Des chevaux plus jeunes comme Furs et Félix, je suis beaucoup plus dans développer leur capacité de mouvement, leur confiance en leur corps, leur capacité à bouger au quotidien, et associer cette capacité de mouvement à la capacité de régulation émotionnelle. Et maintenant que j'ai parlé tout plein de mes chevaux, j'ai encore quelques questions que je voulais vous partager, où là, on parle plus de l'humaine que je suis et de mon vécu. La première, c'est quelle exploration de mouvement a été la plus rigolote pour toi? Et c'est vraiment une exploration de mouvement, en fait, que j'ai eu fait moi, parce que je me suis retrouvée à sauter la clôture. Alors, une clôture intérieure pas très haute, mais en jouant avec les chevaux, en courant, alors je sais plus si c'était First ou Félix, je suis à peu près sûre que c'est un des deux, en leur proposant de courir avec moi, à un moment, je suis arrivée, il y a la clôture, pouf, j'ai sauté par-dessus, pour pouvoir continuer à courir en contact protégé avec le cheval. Et après, mon cerveau s'est dit, tu te rends compte que tu cours jamais, que tu sautes jamais, c'est pas ton truc, le sport. Mais là, avec tes chevaux, tu te retrouvais à sauter une clôture en contact protégé C'est 40 cm, mais c'est énorme, parce que c'est quelque chose que je ne fais pas, en fait, dans mon quotidien. Et donc, ouais, ça a été très drôle de se dire, ah, mais en fait, le fait d'explorer le mouvement avec mes chevaux, ça m'amène à moi à bouger plus, à explorer mes propres capacités de mouvement à moi, parce que je suis dans cette dynamique de motivation intrinsèque, d'avoir envie de bouger avec mes chevaux et de trouver de la joie dans ce que je fais avec mes chevaux. Et ça m'amène à bouger sans m'y contraindre et sans m'y obliger. Et en plus, c'est aussi, j'aime bien cet exemple parce que ça montre vraiment ce que je recherche avec les chevaux, c'est ça. C'est qu'ils se sentent capables de relever des challenges juste parce qu'ils sont tellement dans leur truc que c'est tellement fun qu'on y va. Si tu m'avais demandé de le faire directement, vas-y, cours et saute la clôture là, jamais. Mais par contre, bah, dans le truc, dans l'élan, ouais, j'y suis allée et j'ai adoré. Et c'est comme ça que je conçois l'exploration de mouvement et que j'ai envie de transmettre à mes chevaux. C'est ça que j'ai envie de leur proposer de faire. C'est de trouver les capacités de se dépasser parce qu'ils apprécient ce qu'ils sont en train de faire. Et je sais que c'est possible parce que je l'ai vécu moi-même. Et ça m'arrive encore maintenant assez régulièrement de me retrouver à courir et à sauter des contacts protégés, qui sont jamais très hauts, hein, je ne saute pas 1 mètre de haut, mais quand même, je me retrouve à faire des choses, moi dans le mouvement, que je ne m'imaginerais pas faire autrement. Donc ça, c'est vraiment très chouette. Par contre, à l'inverse, on va poser une autre question, qui est un peu la dimension opposée, qui c'est, as-tu déjà rencontré un cheval qui n'avait aucune motivation à bouger? Et je trouve que cette question est intéressante parce que on voit toujours la motivation, il y a bouger, mais bouger pour quoi faire? J'ai jamais rencontré de cheval qui ne bougeait plus du tout. Jamais. J'ai pas rencontré de cheval qui soit dans son pré et qui ne veuille pas aller marcher, bouger pour aller brouter. Ça arrive quand les chevaux ils se sont blessés ou qui. Voilà, si, ça m'est arrivé que bah, quand Jasmine a fait un abcès, elle voulait plus trop bouger. Ouais, de manière ponctuelle. Mais là, c'est un problème physique. Je pense que ça peut peut-être arriver, mais c'est quelque chose que moi, je n'ai pas rencontré, un cheval qui n'a plus du tout envie de bouger. Par contre, ce que j'ai rencontré, c'est des chevaux qui n'ont plus envie de bouger avec l'humain. C'est des chevaux qui n'ont plus envie d'aller travailler avec l'humain, qui n'ont plus envie de faire ce qu'on leur demande de faire pour bouger. Ça, il y en a plein. Ça commence par Jasmine, qui était dans Résignation acquise quand je l'ai eue. Et bah, c'est aussi quelque chose d'assez fréquent sur des chevaux, soit bah, des chevaux qui sortent de club, ou soit des chevaux qui ont été poussés très loin sur l'équitation étau. Et là, pour ça, j'ai l'exemple de la jument d'une élève, en fait, qui est assez marquant. C'est une jument qui était extrêmement bien éduquée en équitation éthologique. Donc elle pouvait galoper en cordelette. Et bah, sa propriétaire a eu envie d'aller chercher encore autre chose dans son approche et elle sentait qu'il lui manquait cette communication, cette relation. Elle a fait le choix d'aller du leurre sur le R+, et après elle a rejoint mon programme. Et elle a dit un jour, bah, je vais écouter ma jument, je vais écouter ses noms. Et là, bah, ce qui s'est passé, c'est que la jument lui a dit non. Mais elle lui a dit non à tout. Elle ne voulait plus sortir du pré et elle ne voulait plus rien faire avec son humaine dans le pré. Donc là, je pense que c'est ouais, lequel le plus extrême que j'ai rencontré, c'est cette jument-là. Et en même temps, bah, sa propriétaire, elle a fait un choix et elle était bah, alignée dans son choix et dans ses valeurs. Qu'elle a dit, OK, j'y vais, je fais tout ce que je peux pour que ma jument retrouve de la motivation à bouger, de la motivation à être avec moi. Elle a pris beaucoup, beaucoup de temps. Elle a commencé sur des trucs tout bêtes. Déjà, elle a commencé par faire en sorte que sa jument retrouve le plaisir des gratouilles, parce qu'elle n'avait même pas ça. Et progressivement, en fait, bah, elle a amené sa jument à se réveiller, à se révéler et à retrouver vraiment quelles étaient ses propres motivations à elle. Parce que c'était une jument qui avait de la motivation, mais de la motivation qui était extrinsèque, qui avait été éduquée sur de la motivation confort-inconfort. Et du coup, bah, ce qui la faisait bouger, c'était tous les facteurs extérieurs. la pression, et puis à un moment aussi, bah, la récompense alimentaire. Et le jour où on lui a dit, mais en fait, t'es pas obligé de dire oui à tout ce qu'on te demande, bah, elle a dit, ok, je dis non. Et là, elle avait perdu sa motivation intrinsèque. Et ce qui est génial, c'est que là, ça fait un an que je les suis, et il n'y a pas longtemps, bah, sa propriétaire nous a partagé une vidéo où là, je suis moins dans la carrière. Et ça peut paraître pas grand-chose pour plein de gens, mais en fait, là, je sais que la jument, elle est dans la carrière parce qu'elle a dit oui et qu'elle est dans sa curiosité, elle a envie de tester des choses, de redécouvrir des choses, et que son humaine est en train de vraiment tout reconstruire sur le fait que bah, il y avait plein d'associations négatives avec la carrière, hein, plein d'associations liées à la contrainte. Et là, elle a tout déconstruit pour pouvoir reconstruire un humain qui retrouve sa propre motivation et sa capacité à l'exprimer. Donc ça, je trouve ça impressionnant. Je suis aussi impressionnée par le travail qui a été fait hein, par sa propriétaire pour en arriver là. Mais ce qui est intéressant, c'est de se dire, bah, cette jument, on aurait pu dire qu'elle avait de la motivation parce qu'elle pouvait faire plein de choses quand on lui demandait. Mais c'était de la motivation extrinsèque. Et une fois qu'on a été chercher sa motivation intrinsèque, eh ben, il a fallu la reconstruire et l'aider la jument même à la retrouver. Et ça, je pense, c'est quand même assez courant. C'est qu'il y a des chevaux qui, dont la motivation a bougé, bah, c'est lié à leur éducation, c'est lié à la motivation à bouger, c'est éviter la pression. Et donc, on a l'impression qu'ils sont motivés, qu'ils y vont. Concrètement, c'est une forme de motivation. Mais c'est pas forcément la forme de motivation qu'on recherche quand on dit, bah, j'ai envie que mon cheval, il fasse les choses pour moi, ou j'ai envie de faire qu'il fasse les choses pour qu'il y prenne du plaisir. Et donc, ça, c'est vraiment ce côté intéressant, c'est se questionner sur la motivation à bouger, ouais, mais quelle est la motivation? Et donc, ouais, il y a des chevaux qui n'ont plus de motivation intrinsèque ou quasiment plus de motivation intrinsèque pour bouger et interagir avec l'humain. Souvent parce qu'ils ont vécu quelque chose de plutôt fortement coercitif avant. Mais on peut les accompagner pour qu'ils retrouvent cette motivation intrinsèque dans le mouvement, dans la joie et dans la communication avec eux. Et c'est vraiment un truc qui est au cœur de mon approche, et ça, c'est ce côté où on va aller dans une communication qui va être vraiment réciproque et on va leur permettre de faire grandir cette motivation intrinsèque à bouger. Et il y a beaucoup, beaucoup de joie pour l'humain à ça. Et de se dire que, en fait, il le fait vraiment pas parce que je lui oblige, et il le fait parce que c'est intéressant pour lui. Il y trouve vraiment du plaisir. Parce que s'il y trouvait pas du plaisir, il le ferait pas, il a le droit de pas le faire. Et c'est bien, j'ai commencé à répondre à la question d'après, qui est la dernière question, mais qui est finalement très précieuse aussi, c'est qu'est-ce qu'Intrazen t'apporte à toi en tant qu'humain? Et c'est ce que je viens de dire, c'est que ça m'apporte bah, beaucoup de joie, parce que c'est la joie de voir mes chevaux heureux, voir mes chevaux qui ont envie d'être avec moi, d'envie de faire les choses, et voilà, qui s'investissent dans ce qu'on fait. La joie quand ils proposent, quand ils ont des idées loufoques que j'avais pas attendues. Donc c'est pas moi qui suis toujours le leader et le guide dans ce qu'on fait ensemble, mais c'est vraiment ça, on fait ensemble. Et il y a vraiment, au-delà de la joie, il y a aussi de la légèreté. La légèreté d'être en accord avec mes valeurs. La légèreté de me dire, ouais, ils le font parce qu'ils ont envie, et parce qu'ils y trouvent du plaisir. Je me mets pas la pression de me dire, mais ouais, est-ce qu'il a envie ou pas? Je le sais, parce qu'ils savent me le communiquer. Et voilà, et ça lâche un stress, quoi. Ça lâche une charge de, je dois faire bouger mon cheval, je dois le faire bouger comme ci, comme ça, de manière très précise. Mais non, en fait, je peux juste l'accompagner à bouger, l'accompagner à développer son agilité, à développer son corps, et en plus le faire d'une manière où moi je m'amuse avec lui, où lui s'amuse avec moi, et on est bien, en fait, ensemble, tous les deux, ou tous les quatre, puisque là, du coup, bon, je suis pas jamais avec tous les chevaux tous ensemble, mais j'ai quand même trois chevaux, quoi. Donc ouais, moi, ça m'a vraiment apporté ce côté alignement avec ma valeur. Donc moi, j'ai compris qu'elle était précieuse pour moi, de l'autonomie. Et de fait de laisser le contrôle à l'individu de son corps et de ce qu'il fait avec son corps. Je sens que c'est quelque chose dont j'ai besoin moi, c'est quelque chose que je recherche, c'est la façon dont j'ai envie de mener les choses. Et donc ça m'apporte cet alignement à cette valeur-là, que j'ai pas trouvé dans d'autres approches. Et ça, ouais, c'est un truc qui pour moi est finalement super important, c'est d'aller chercher une façon d'être avec nos chevaux qui correspond à ce qu'on met en priorité dans nos valeurs et dans nos envies préférentielles. L'exploration du mouvement. Elle répond vraiment à cette approche où on veut de l'autonomie chez le cheval, on veut un cheval qui soit bien dans son corps et bien dans sa tête, sans pour autant avoir envie de travailler monté ou de travailler sur du dressage, qui sont différentes façons de faire les choses. Et donc ouais, c'est ça que j'ai envie de vous transmettre quand je vous parle d'exploration du mouvement, quand je vous parle de mon programme des exploratrices du mouvement, c'est de vous accompagner pour que vous puissiez trouver une façon d'être avec vos chevaux qui va correspondre à cette valeur clé d'écoute réciproque et de l'idée de remettre le cheval au centre de la pratique équestre et au contrôle de son propre corps, tout en l'accompagnant à aller faire plus de choses, de lui permettre de développer aussi ses capacités physiques et ses capacités émotionnelles en respectant ses limites, donc sans passer par de la contrainte. Et d'ailleurs, c'est souvent les retours que j'ai quand on échange avec mes élèves, c'est que finalement, ce que ça apporte, c'est vraiment une autre façon d'amener la relation avec le cheval. C'est une autre façon d'être en lien et où on le sent différent et on sent vraiment son envie de participer et d'être avec nous. Et c'est profondément ça, en fait, que j'ai envie de te permettre d'atteindre avec le programme des exploratrices du mouvement. Et c'est ce que j'adore aussi dans nos échanges en visio, parce qu'on se rend compte que plein de complémentarités entre les différentes personnes, et quand on échange ensemble, on a ces mêmes valeurs de fond qui nous emmènent, et qu'on peut trouver des solutions ensemble pour les chevals, le cheval de l'une ou de l'autre, pour pouvoir avancer en restant cohérent avec ces valeurs-là. Donc vraiment, si ça tente cette approche, si ça te parle, comme je te disais, moi j'ai ressenti le besoin de me former et que ça m'a énormément aidée parce que je comprenais les notions théoriques que je mets en place et pourquoi je fais les choses. Et donc ça, c'est quelque chose que je te transmettrai dans les exploratrices du mouvement. Et en plus de ça, je transmets aussi des idées de séances. Parce que je le sais, c'est qu'il y a très 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 souvent, on arrive devant le cheval et on se dit « mais qu'est-ce que je fais aujourd'hui ?» Donc il y a aussi dans le programme ce côté « je te propose des séances ». Et certaines, tu as les vidéos commentées de moi qui fais ces séances avec un de mes chevaux, donc pour voir encore un peu plus comment ça se passe. Et surtout, dans les exploratrices du mouvement, c'est pour ça qu'il y a des sessions, on fait des visios. Sur les 3 mois où tu as accès au cours, il y a 7 visios, et ensuite tu peux accéder aux visios suivantes, des sessions suivantes. Donc tu auras au moins 10 visios, donc coaching de groupe, où on échange, où on discute ensemble. Et des fois, c'est moi qui dis des choses, mais très souvent, en fait, je m'efface et je vois les personnes qui échangent entre elles. Parce que vous avez toutes des choses à vous apporter et que quand vous êtes sur la même approche, la même façon de voir les choses, eh bien, on se complète toutes les unes les autres par nos expériences. Et même moi, j'adore ces moments-là parce que ça, moi aussi, ça me donne des idées encore en plus. Et ça enrichit tout le monde. Et donc, ouais, si tu as vraiment envie d'échanger avec d'autres personnes aussi, rejoins les exploratrices du mouvement. Donc, la session qui est de printemps 2024, là, les inscriptions finissent le 4 avril. Et je ne sais pas quand il y aura une prochaine session, probablement en fin d'année, mais pas avant. Donc voilà, j'espère que ce format, c'est vous qui m'interviewez, vous a plu. Vous avez eu un peu des réponses à vos questions et vous en savez un peu plus sur moi et mes chevaux et mon histoire avec l'exploration de mouvement. Ouais, viens me le raconter en message quel moment de cet épisode de podcast t'as le plus plu ou t'as le plus surprise. Et puis on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao! Et voilà, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à vos amis qui pourraient être intéressés. Pour échanger avec moi et ne pas manquer les prochains épisodes, retrouvez-moi sur mon compte Instagram, @leschevauxexplorateurs. Et si vous avez envie qu'on aille plus loin ensemble ou que vous souhaitez en savoir plus sur mes accompagnements individuels et mes programmes en ligne, n'hésitez pas à me contacter par mail ou à vous rendre sur mon site internet pour en savoir plus. Tous les liens sont en description de l'épisode. À très bientôt!